Bienvenue sur StratPol, nous sommes le jeudi 2 mai 2024, c'est notre bulletin numéro 184 et nous sommes de retour à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Patreon, Tipeee, PayPal ou le canal Telegram payant. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec le canal Telegram payant. Vous pouvez vous inscrire sur Tipeee ou Patreon, vous aurez les mêmes contenus en fait. Voilà, vous pouvez également évidemment vous procurer nos ouvrages sur thebookedition.com, donc le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Donc sur The Book Edition, hein, vous avez d'autres personnes qui publient, comme Pierre-Antoine Plaquevent, dont on a fait une interview, ou Youssef Indy qui arrive. Donc bah, profitez-en pour faire une commande groupée pour diminuer les coûts de transport. Vous pouvez évidemment vous abonner à, et vous devez vous abonner à notre partenaire Géopolitique Profonde. Voilà un an de Géopolitique Profonde. À ça qu'on juge un projet efficace, c'est quand il dure dans le temps. Et puis, bien, on retrouve les gens qu'on aime, le général de la Ward, Frank Pengam, Jean-Maxime Corneille, Laurent Ozon, Erlin, etc., etc., Plaquevent, Youssef Indy qui écrivent également de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je vous l'avais dit, j'ai recommencé donc à lire les livres que vous m'avez envoyés par dizaines. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'ai commencé. Donc, le premier dont je vais rapidement parler, eh bien, il m'a été offert par Sylvain Ferreira. Donc, c'est en fait, c'est une monographie sur le 3e Panzer Corps, l'élite des Panzers à l'Est. Donc, c'est une unité allemande qui a combattu pendant de 1942 à 1945, tout le temps sur le front de l'Est. Et c'est très intéressant. Hein. En plus, l'auteur, a déjà participé à nos émissions sur l'échiquier mondial. Là, on fait un spécial 9 mai qui va sortir dans une semaine sur un parallèle entre l'année 1944 et 2024. Hein, on a eu la bataille de Koursk, et bien c'était l'offensive manquée ukrainienne de l'été dernier. Aurons-nous Bagration en 2024? C'est la réponse, et bien vous l'aurez peut-être avec Sylvain Ferreira dans une semaine. Donc voilà, je vous recommande Panzer Corps. C'est édité chez Caractère, presse édition, 39,90 €. Et donc, en plus, c'est illustré. Alors, bon, voilà, c'est, si vous aimez la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, mais c'est très intéressant. Et puis, ça se passe, encore une fois, sur les territoires où la guerre a lieu actuellement. Hein. C'est le déficit de compréhension des gamelins de plateau. C'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont dans leur guerre coloniale, c'est tout ce que, et leur guerre post-coloniale, néo-impérialiste, voilà, ça, ils aiment ça. Donc, ils préfèrent parler, évidemment, de ce qui se passe en Israël. Ils comprennent, en fait, plutôt que ce qui se passe sur le front de l'Est, parce que ils ne l'ont jamais étudié et n'y ont jamais rien compris. Pour nos frères orthodoxes, c'est la semaine sainte. Donc, voilà, Pâques, pour eux, c'est dimanche prochain. Donc, eh bien, nous pensons bien à eux. Surtout, on pense à nos frères orthodoxes qui sont en Ukraine, encore sous le joug kiévien et qui sont persécutés, notamment le métropolite de Zaporojé a été arrêté. Et donc, c'est exactement, en fait, les persécutions qu'ont subi les catholiques pendant la terreur, également pendant la Troisième République, lorsque nos écoles ont été fermées par Gambetta et Jules Ferry. Voilà, donc, ben, l'histoire, malheureusement, se répète. Et là, c'est les mêmes genres de forces qui s'affrontent, encore une fois, la civilisation chrétienne face aux sauvages. C'est la même chose. Donc, on pense bien à eux, on prie pour eux. Et puis, courage, de toute manière, on les aura. Voilà, pour nos frères orthodoxes, on commémore également le massacre d'Odessa le 2 mai 2014. 42 militants pro-russes étaient brûlés vifs à Odessa par les unités de représailles kiéviennes. Donc, tout c'était organisé par notamment le président par intérim de l'époque, Tourchinov, surnommé le pasteur sanglant, et toute la clique de Maïdan, 42 morts, 150 blessés. Ça a évidemment accéléré la volonté, notamment des Russes du Donbass, eh bien, de prendre leur indépendance de ce régime ignoble. Il faut ajouter que justice n'a pas été faite et que ceux d'ailleurs qui ont été envoyés en prison à l'époque, c'était les survivants. Aucun de ceux qui organisaient le massacre n'y a été envoyé. Mais tôt ou tard, l'armée russe arrivera à Odessa, et justice sera faite. On commémore aujourd'hui également la reddition de Berlin le 2 mai 1945, lorsque le général Helmut Weidling, donc que vous voyez à gauche sur la photo, et c'est ce général qui a capitulé 6 jours ou 7 jours, selon qu'on soit en Russie ou en France avant la capitulation sans condition du Troisième Reich. Voilà, les derniers défenseurs du bunker d'Hitler étaient des Français de la Légion Charlemagne. Alors, va-t-on de nouveau envoyer 7000 hommes de la Charlemagne se battre contre la Russie? Le prédécesseur, qui était aussi d'ailleurs un socialiste, Pierre Laval et Marcel Déa l'avaient fait, donc c'est ce que veut Glucksmann, lui aussi socialiste, c'est ce que veut Emmanuel Macron, lui aussi socialiste. Eh bien, vont-ils renouveler l'expérience? De toute manière, qu'ils soient envoyés à Berlin, à Odessa ou à Kiev, le résultat sera le même. Je fais ici allusion à la dernière interview qu'a donnée notre président immature, Emmanuel Macron, donc sur The Economist, où il parle d'envoyer des soldats au front. Évidemment, quand on voit la situation à l'intérieur du pays, on comprend qu'il a envie de parler d'autre chose. Alors, ce qui est intéressant, il dit oui, la condition, c'est si l'Ukraine le demande et si les Russes franchissent la ligne de front. Alors, c'est ce que font les Russes depuis le mois de novembre, et ces dernières semaines, ils sont vraiment en train de percer. Donc, il va falloir prendre une décision, cher Emmanuel Macron. Dernière annonce, je repars prochainement dans le Donbass. Donc, si vous voulez participer à cette opération humanitaire, vous pouvez aller visiter le site Ouest-Est et faire un don. Le principe, c'est qu'en fait, on achète tout sur place. L'année dernière, on a équipé en partie l'hôpital public, et notamment de climatisation. On en a mis partout. Voilà, et c'est très bien fonctionné. Il y a tout un programme qui est prêt pour aider les hôpitaux, les écoles, ceux qui restent d'orphelinats, hein, puisque les orphelins ont été transférés en Russie. Il reste simplement les orphelinats pour les 9 mois. En fait, ce qui se passe, c'est que quand un enfant est repris à sa mère parce qu'elle s'en occupe mal, en fait, elle a 9 mois pour le récupérer. Donc, ces orphelinats-là restent encore dans la région de Donetsk, dans les régions libérées par les Russes. Et dès que c'est plus de 9 mois, où le processus de retirer les droits de la mère a commencé, eh bien, ils sont envoyés à l'abri dans la profondeur du territoire russe. Mais parlons maintenant d'économie, et la première nouvelle économique nous vient du Financial Times, puisqu'on apprend que les banques occidentales ont versé en 2023 800 millions d'euros de taxes au fisc russe, et que c'est 4 fois le niveau de 2021. Donc ça, on en avait déjà parlé, les banques russes se portent très bien. Évidemment, les banques occidentales qui sont encore présentes en profitent. Ce qu'on apprend aussi, c'est que Washington vient de lever partiellement les sanctions sur plusieurs banques russes qui font du trading de matières énergétiques, dirons-nous, donc gaz, charbon, pétrole, uranium, bois. Donc ces sanctions sont levées jusqu'au 1er novembre 2024, encore une fois le réalisme américain. Et surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que eux peuvent le faire. On se souvient qu'ils avaient précipitamment mis l'engrais russe dans les sanctions, ils l'ont levé au bout d'une semaine, l'uranium au bout de 24 heures, hein, c'est ce qui s'était passé au début de l'année 2022. Et là, en fait, ils font pareil. Nous, on ne peut pas le faire parce que les sanctions sont prises au niveau de l'Union européenne. Et donc, il faut que les 27 soient d'accord. Et évidemment que Washington peut activer l'un ou l'autre des nano-États baltes, la Pologne, tous les États esclaves qui lui sont complètement soumis pour nous empêcher d'être réactifs vis-à-vis des nécessités du marché. Donc là, encore une fois, hein, quoi qu'il arrive, Washington joue sa carte, y compris et surtout contre l'Europe. On parle encore de l'uranium, j'en ai parlé dans mes derniers bultins à plusieurs reprises. En fait, Framatome, le français, et Rosatom, le russe, ont une entreprise commune et planifient de produire de l'uranium enrichi pour les centrales nucléaires, notamment héritées de l'Union soviétique, et aussi celles qui viennent d'être construites, notamment, pourquoi pas, en Biélorussie, d'autant plus que la Biélorussie en voudrait encore une autre. Et bien, donc, le but de Washington, c'est d'empêcher la France, bien sûr, d'investir avec la Russie dans cette production de matières nucléaires. Et donc, pour ça, comme d'habitude, ils viennent de prendre une loi qui interdit à terme, d'ici 2030, d'acheter de l'uranium enrichi en Russie, puisque la moitié de l'uranium enrichi des centrales nucléaires américaines sont russes. Et donc, les États-Unis, comme tout le monde, contribuent à l'effort de guerre russe en achetant pour des milliards depuis des années. Et ce qui est intéressant dans cette loi, c'est que donc, en principe, c'est interdit, sauf si on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent continuer à en acheter, mais c'est une loi qui est prise pour faire pression précisément sur l'Union européenne et sur la France pour forcer Framatome à ne pas s'allier avec la Russie. Encore une fois, il ne faut jamais oublier que autant l'offensive contre la Russie aura totalement échoué, la destruction économique de la Russie n'a pas eu lieu, au contraire, mais en revanche, la destruction de l'économie européenne, elle, a très bien fonctionné, notamment de l'économie allemande et de l'économie française. Donc, on est toujours là et je ne pense pas que Macron puisse résister très longtemps aux ordres qu'il reçoit de Washington. La Russie, elle, continue ses mesures de contre-sanctions, notamment vis-à-vis des filiales qui sont présentes sur son territoire et qui appartiennent à des entreprises donc de pays hostiles qui ont mis des sanctions. Et deux entreprises italiennes ont été mises sous tutelle de Gazprom, en fait. C'est les filiales d'Ariston Thermo Russe et BSH Household Appliances, qui sont en fait des sociétés italiennes. Alors évidemment, ça a énormément choqué le vice-premier ministre italien qui n'a pas compris. L'ambassadeur russe a été convoqué. Et en fait, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'eux ont le droit de prendre des sanctions complètement illégales contre la Russie, de pourquoi pas à terme voler les actifs russes, mais que la Russie riposte, ça, ils ne trouvent pas ça normal. Encore une fois, je l'ai dit et je le répète, il y a suffisamment d'actifs sérieux, d'actifs industriels, pour que la Russie se rembourse de tous les vols potentiels de ses actifs, des obligations notamment, du trésor italien, français, tout ce que la Russie a fort imprudemment acheté avant l'opération militaire spéciale. Deux informations intéressantes dans Bloomberg. La première, eh bien, c'est que les assureurs des supertankers qui transportent le pétrole ne sont pas contents parce que, comme je l'ai expliqué, la Russie s'est créée avec des tankers d'occasion une large flotte qui lui permet de transporter son pétrole sans aucun contrôle en mettant en place son propre système d'assurance. Donc, c'est une énorme perte de marché pour les grands assureurs internationaux. Et donc, ils se plaignent en disant que de toute manière, ça ne marche pas. Et c'est vrai que ça ne marche pas. Donc, évidemment, ça sort dans Bloomberg parce que ces assureurs aimeraient bien faire passer le message auprès des autorités américaines. Est-ce qu'elles vont assumer l'échec de leurs sanctions dans ce domaine-là? Rien n'est moins sûr. Malgré tout, encore une fois, ils sont dans le bunker et ils attendent un miracle. Et en attendant, ils serrent les fesses, pour parler un peu familièrement. Deuxième information intéressante dans Bloomberg, eh bien, c'est que les Russes donc, qui avaient fui le pays au moment de la mobilisation, hein, donc à l'automne 2022, eh bien, ont commencé à rentrer et participent au décollage économique de la Russie, et notamment à l'effort de guerre. C'est ce que déplore, bien sûr, dans Bloomberg, et en expliquant que de toute manière, pour eux, finalement, ils gagnent mieux leur vie, notamment ceux qui avaient des postes élevés, eh bien, on les rappelle avec des conditions supérieure à ce qu'ils avaient avant, et puis que de toute manière, là où ils sont partis, ce sont des économies qui ne vont pas si bien, notamment l'Europe, notamment il y a eu beaucoup de départs en Géorgie, donc la situation n'est pas stable, loin de là, et finalement on n'est pas si mal en Russie. Donc encore une fois, l'enjeu de la main-d'œuvre est extrêmement important pour l'économie russe, c'est pour ça que eh bien, je suis partisan, comme Yuri Podolaka, donc le fameux blogueur russe que je cite souvent, d'accueillir toutes ces populations ukrainiennes. Il y a 1 million d'Ukrainiens en âge d'aller se battre, qui ne veulent pas aller se battre, qui sont en Union européenne. Eh bien, ces gens-là, il faut les récupérer. Pourquoi pas leur donner un passeport temporaire, trouver une solution pour qu'ils puissent émigrer en Russie et participer à la grande aventure économique de la Russie. Le seul problème de la Russie aujourd'hui, c'est la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, elle est ukrainienne, elle existe, il faut absolument la récupérer. Dernière nouvelle économique, et c'est notre vignette, c'est notre cher Bruno, le génie de la finance, le Mozart de la comptabilité, qui nous a donné une interview. Ça fait suite à la publication de son dernier ouvrage. Alors, ce n'est pas une histoire de fesses, contrairement à la dernière fois. Il explique en fait ce que devrait faire le ministre de l'économie et des finances s'il était compétent. Visiblement, c'est le thème. Alors, on croyait que c'était lui, mais visiblement non, puisqu'il vient d'écrire un bouquin pour expliquer ce qu'il faut faire. Et donc là, on a eu le droit à toute une série de fadaises sur l'économie russe qui décollait grâce à la production d'armement et de munitions, comme si les 3,6% de croissance, c'était de l'armement et des munitions. Ça a été bien expliqué, encore une fois, par Jacques Sapir. C'est la consommation interne qui tire l'économie russe. La Russie est un pays riche qui produit énormément, qui s'hyper-industrialise. C'est ça la raison de sa croissance. C'est aussi le fait, eh bien, comme on a sanctionné les gens riches, y compris ceux qui étaient hostiles à Poutine, ils ont ramené énormément d'argent en Russie et donc ils investissent et ils rachètent. Ils se précipitent d'ailleurs pour racheter toutes ces sociétés industrielles occidentales qui sont contraintes de quitter la Russie. Il est revenu sur le fait que la note de la France n'a pas été dégradée. De toute manière, ça, il fallait s'y attendre. C'est comme Lehman Brothers la veille de la faillite. Hein, ils étaient notés AA par toutes les agences de notation. Évidemment, pour l'Occident collectif, ce n'est pas le moment d'affaiblir la France alors qu'il est en guerre contre la Russie. Donc Bruno Le Maire, à tort de crier victoire, s'est reculé pour mieux sauter. De toute manière, il n'y connaît rien en économie, pas plus qu'il s'y connaissait en agriculture. Il finira peut-être à la jeunesse et au sport, et pourquoi pas revenir à la littérature coquine, finalement. Peut-être que ça, il le fait bien. Je ne sais pas, je n'ai pas lu son livre, et ça, ce n'est pas au programme. Politico-diplomatique maintenant, on en avait parlé dans notre dernier bulletin, visite de Blinken en Chine, où il s'est fait humilier copieusement. Il a été mal accueilli à l'aéroport. Quand on compare, et beaucoup l'ont fait, l'accueil de Bachar el-Assad et de sa ravissante épouse, évidemment qu'on n'est pas du tout dans la même perspective. Et en plus, il est arrivé pour menacer la Chine. Encore une fois, on ne menace pas un pays de 3500 ans, ça ne se fait pas, surtout un pays comme la Chine. Donc on ne menace pas la Chine, donc il est reparti, parler familièrement, une main devant, une main derrière, puisque pour Pékin, il est hors de question d'appliquer les sanctions occidentales contre la Russie. Blinken est reparti encore plus misérablement qu'il est venu, et donc très énervé, il a quasiment annoncé qu'il allait faire la guerre économique à la Chine, en disant que le problème aussi, c'est que la Chine menaçait l'Europe, puisqu'en gros, elle soutenait la Russie qui menaçait l'Europe. Donc en fait, c'est Blinken qui définit, hein, encore une fois, la politique étrangère européenne. Donc c'est lamentable. De quoi ça va accoucher, on ne sait pas trop. De toute manière, ça aussi, c'est sorti dans la presse économique. Les sanctions qui ont été mises contre la Chine ne fonctionnent pas, puisque les États-Unis continuent à importer des produits chinois, simplement plus chers, puisqu'ils passent par des intermédiaires. Voilà. Donc ça ne marche pas. Xi Jinping doit se rendre prochainement en Europe pour rencontrer ses alliés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a évidemment la Serbie et la Hongrie, mais également la France. Ça, je pense, c'est notre histoire. Encore une fois, c'est grâce au général de Gaulle. Hein. On l'a dit, janvier de 1964, reconnaissance de la Chine continentale, la Chine communiste par le général de Gaulle, il y a exactement 60 ans. Est-ce que Macron sera à la hauteur de cette chance que lui donne Xi Jinping? Rien n'est moins sûr. La rumeur court qu'il voudrait inviter une fois de plus sa nounou, c'est-à-dire Van der Leyen, donc qui serait envoyé par Washington pour le surveiller, pour pas qu'il dise des bêtises et qu'il aille dans le sens de Pékin. La France est un pays en voie de tiers-mondisation, nous avons besoin de la Chine, on a besoin de ses investissements, de partenariats économiques avec elle. Espérons malgré tout qu'il y ait dans ce gouvernement incapable quand même quelques personnes qui se rendent compte de l'enjeu et de ce que ça représente de recevoir Xi Jinping. Voilà. Je suis, de mon côté, comme Laurent Michelon, très inquiet. Concernant la Chine, notons enfin que Pékin a accueilli les responsables du Hamas et du Fatah. Le Hamas contrôle la bande de Gaza et le Fatah contrôle la Cisjordanie. Donc l'idée, bien évidemment, ce serait de les mettre d'accord pour qu'il y ait une unité au sein de l'autorité palestinienne pour la renforcer dans les négociations qui finiront tôt ou tard par arriver. À suivre. Erdogan aussi, lui, continue à apporter son soutien à la Palestine, hein, parce que effectivement, c'est quelque chose qui compte dans le monde arabe et dans le monde musulman, dont Erdogan prétend être un des leaders, et donc concurrencé par l'Arabie Saoudite, par l'Iran. Donc Erdogan a reçu le chef du Hamas à Istanbul, dans le cadre de la campagne militaire qui pourrait être menée dans le sud de la bande de Gaza et qui pourrait avoir des conséquences humanitaires aussi catastrophiques que ce que l'on voit depuis le 7 octobre. Dernière déclaration importante de la Chine, du ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, qui a déclaré que l'OTAN était responsable de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est important. Une fois de plus, c'est un soutien à Moscou, un soutien de principe. Passons maintenant à l'armement. Beaucoup d'informations sur l'armement cette semaine. La première, eh bien, c'est l'exposition des armes miracles qui auraient dû être les Game Changers. Donc permettre à l'armée OTAN qui vient de l'emporter sur l'armée russe, hein. C'est ce que disait d'ailleurs le général Milley, commandant les forces américaines, il y a exactement un an, le 21 avril 2023, que l'Abrams, c'était pas une balle en argent, mais que ça allait faire la différence. Ils étaient persuadés que la pointe d'acier allait percer les défenses russes. Et bien c'est complètement raté, et d'ailleurs l'Abrams M1 est retiré du front, pas parce que ça marche pas. Évidemment, le fait de détruire avec des drones qui coûtent pas grand-chose un char qui vaut entre 8 et 10 millions de dollars, évidemment, ça fait pas plaisir. Je pense qu'il y a aussi les problèmes de logistique que nous avons évoqués, notamment dans ce livre, hein, que évoquait également le colonel McGregor lorsqu'on a annoncé, Je crois que c'était en décembre 2022, l'arrivée des Abrams, en disant bah, « Oui, mais ça fonctionne au kérosène, c'est très compliqué en logistique, faut changer le filtre. Enfin, » tout ça a été dit petit à petit dans la presse anglo-saxonne. Et là, évidemment, les Abrams viennent de percuter violemment le mur de la réalité, et les Occidentaux aussi. Donc, énorme humiliation. Cette exposition est une énorme humiliation, il faut le dire. Le retrait des Abrams est une énorme humiliation. Mais pourtant, on continue toujours à nous parler d'armes miracles qui vont arriver, qui vont être le game changer. On a appris également depuis notre dernier bulletin, dans la bouche du vice-ministre de la Défense chargé des acquisitions, vice-ministre de la Défense américain, William Laplante, le bien nommé, ça doit être vraisemblablement des origines françaises, là, québécoises. Et donc, il a déclaré que les GLSDB donc, ne fonctionnaient pas. Qu'est-ce que c'est que les GLSDB ? On en avait parlé également. C'est des armes qui ont été livrées en janvier par les Américains pour compenser le fait que l'aviation ukrainienne ne peut pas voler assez haut pour envoyer des bombes planantes. Donc, les bombes planantes, c'est des bombes qui ne coûtent pas cher, puisqu'en fait, elles dérivent grâce à l'inertie, en déployant leurs petites ailes. Les Russes les utilisent énormément, ça aussi on en a parlé, 250 kilos, 500 kilos, une tonne 5, bientôt 3 tonnes. Et le problème, c'est que pour qu'elles dérivent, eh bien, il faut monter au moins 5000, même d'après ce que j'ai lu, 10, voire plus, 1000 mètres. Et là, vous pouvez dériver. Donc, comme Kiev ne peut pas, en fait, le complexe militaire industriel américain a proposé une version où, en fait, il y a un booster qui envoie la bombe et ensuite, elle plane, guidée par GPS. Or, comme les Russes brouillent tous les GPS, eh bien, ça ne marche pas. Et on apprend donc par William Laplante que les Ukrainiens ont cessé de les utiliser. Et là aussi, on nous avait promis que ce serait un game changer. Ça n'a rien changé du tout. Selon le même principe du brouillage GPS, on a appris également que les obus Excalibur, donc les obus d'Excalibur, c'est un obus guidé par une balise GPS. Donc, c'est du 155 mm qui est guidé par GPS. Ça aussi, ça ne marchait pas parce que la guerre électronique russe fonctionne trop bien. Donc désormais, ça aussi, c'est officiel. Tout ça, c'est des choses que nous disions, nous aussi, à l'époque, quand ces armes miracles étaient arrivées avec l'enthousiasme de tous les joueurs de jeux vidéo qui supportent l'Ukraine. Au passage de choses qui ne marchent pas, on apprend grâce à un article du Canard Enchaîné, et a priori maintenant l'info est passée dans les autres médias, que les systèmes anti-drones proposés par Thales, je crois, ne fonctionnent pas pour protéger les Jeux Olympiques à Paris. Voilà. Alors, la solution, c'est peut-être de demander aux Russes. On arrête de livrer des Césars et puis en échange, on leur emprunte quelques systèmes anti-drones parce que eux, ça fonctionne de mieux en mieux. Pour finir sur l'armement, eh bien, parlons de ce qui va être livré ou ce qui est en train d'être livré par les États-Unis à l'Ukraine. On a la liste complète. Alors, il y a deux grands absents. Donc, pas de chars lourds. Donc, là, les chars, Abrams, c'est visiblement terminé. Pas de Patriot non plus que réclamait à grands cris Zelensky et Kouleba, son ministre des Affaires étrangères. Ça aussi, c'est un signe. Donc, on est en limite de capacité. En revanche, tout de même, 1 million de munitions, 255 mm, c'est pas rien. Donc, est-ce que c'est 1 million 9 ou est-ce que c'est des munitions qui ont été, comme je l'ai dit, depuis qu'il y a cette crise, donc des 61 milliards, depuis le mois de novembre à peu près, le Pentagone a continué à livrer des munitions. Donc, est-ce que ces livraisons incluent celles qui ont déjà été livrées ? En tout cas, 1 million de munitions, évidemment. C'est du sérieux si les Russes n'arrivent pas à les détruire avant qu'ils arrivent sur le front. Mais quoi qu'il arrive, c'est encore largement en dessous de ce que produisent les Russes seuls. Je crois que maintenant, on est à 3 millions par an, sans compter l'aide qu'ils peuvent recevoir potentiellement de la Corée du Nord, notamment. Donc, c'est quand même du sérieux. 200 000 également au but de 152 mm. Donc ça, c'est pour les matériels soviétiques. Ça, c'est assez réaliste. On note également une trentaine de radars de contre-batterie, parce que beaucoup ont été détruits par les Russes. 5000 armes légères, bon, pourquoi pas. Voilà, c'est ce que j'ai noté de plus important. Encore une fois, ça ne permettra pas à l'Ukraine de gagner la guerre. Elle va la perdre, c'est certain, mais ça va prolonger le supplice, surtout de ces malheureux Ukrainiens qui, espérons-le, réussiront à fuir la mobilisation. Empire du mensonge maintenant, et la première nouvelle qui concerne un peu cet empire du mensonge, c'est que je m'étais interrogé, vous vous souvenez, j'en avais parlé, d'ailleurs tout le monde en avait parlé dans les médias occidentaux, sur le fait que les malheureux soldats ukrainiens, non seulement se font hacher menu par la puissance de feu russe, mais en plus ceux qui survivent, pour compenser leur stress, jouent au casino en ligne et s'endettent, on perd la totalité de leur solde, leurs familles sont ruinées. Et je m'étais d'ailleurs interrogé comment quelque chose comme ça soit possible et qui en profitait. Eh bien, on a fini par l'apprendre grâce à la presse ukrainienne notamment, mais également russe qui a repris l'information. Eh bien, il y a une collusion entre les autorités ukrainiennes et un homme d'affaires donc, qui s'appelle Arnulf Damero et qui détient une participation majoritaire dans un réseau de casinos en ligne en Ukraine qui s'appelle Cosmolot. Et comment est-ce qu'on l'a appris ? Eh bien, parce qu'il se fait racketter par l'administration de Zelensky. Tout le monde veut sa part du gâteau et il s'en déplaint publiquement. Alors, ça a permis d'aller voir un peu qui est cet Arnulf Damero. J'ai trouvé sa biographie qu'il a lui-même d'ailleurs publiée. Hein. C'est un très, très gros homme d'affaires. Et on dirait vraiment un personnage d'un ouvrage de Pierre-Antoine Plaquevent sur la mondialisation. Il coche quasiment toutes les cases. Donc, écoutez plutôt. Entrepreneur, philanthrope, président et fondateur de l'Euro-Atlantic Group et de l'Euro-Atlantic Institute, qui organise des dîners sur la sécurité euro-atlantique dans le cadre de la conférence de sécurité de Munich et du World Economic Forum. Jeune, il a travaillé comme assistant du directeur financier d'une filiale du missilier américain Raytheon. Et il a également travaillé pour Lehman Brothers dans les années 90. Et il est directeur de l'Atlantic Jewish Foundation. Donc c'est l'incarnation parfaite, lui et ses complices ukrainiens, de ce que c'est qu'un profiteur de guerre, hein, puisqu'il va dépouiller ces malheureux soldats ukrainiens qu'on a envoyés se battre pour Zelensky et l'Occident collectif. C'est tellement symbolique de ce qu'est devenu l'Ukraine, c'en est terrible. Empire du mensonge, et on pourrait dire également terrorisme, les Russes ont découvert à Avdeïevka des charniers avec des corps torturés. Donc à peu près ce qu'ils ont découvert également à Mariupol, il y a eu énormément de tortures et d'exécutions sommaires dans ces territoires. Notamment, je l'avais dit, Mariupol, c'était la ville contrôlée par le régiment Azov, par le National des Corpus, et ils s'en sont donnés à cœur joie. Et a priori, il s'est passé exactement la même chose à Avdeïevka. Une petite nouvelle concernant le terrorisme, on a retrouvé Andrei Biletsky, donc le fondateur devenu régiment Azov, qui est maintenant la 3e brigade d'assaut. On l'a retrouvé, il est venu décorer ses adeptes sur le front des troupes. Alors on se demande pourquoi il les a décorés, sans doute pour la débâcle la plus rapide lorsque la 3e brigade d'assaut s'est enfuie au bout de 24 heures de la coquerie d'Avdeïevka. On ne sait pas trop. En tout cas, il est là, il vit encore, il est caché et on le sort de temps en temps pour qu'il aille décorer ces unités de représailles qui ne valent finalement que parce que ce sont des unités de représailles. Si on les envoie sur le front maintenant, c'est surtout pour empêcher ces malheureux mobilisés de quitter leur position ou de se rendre aux Russes. Considération militaire générale maintenant, ensuite à l'attentat donc au Krakow City Hall, il y a une grande campagne anti-immigration. Vladimir Poutine n'est pas tombé dans le piège d'incriminer l'islam, mais il incrime l'immigration. Et notamment, il y a des déportations massives de travailleurs clandestins, essentiellement tadjiks, mais pas seulement. Vladimir Poutine a fait des déclarations en disant que l'immigration n'était pas une solution pour compléter la main-d'œuvre, qu'il fallait en revanche augmenter la productivité et robotiser au maximum les usines. Je crois que c'est une approche qu'on pourrait qualifier de japonaise, et je crois que c'est la bonne, et c'est malheureusement pas celle qu'a suivi la France depuis les 30 Glorieuses. Problème de manœuvre, évidemment, dans l'armée ukrainienne. Et là, on a eu une nouvelle assez incroyable de la part du ministre de la Défense polonais, donc qui s'appelle Kosiniak-Kamysz, j'espère que je prononce bien, qui annonçait qu'il était prêt à aider le régime de Kiev à récupérer les hommes en âge de se battre, donc ukrainiens réfugiés en Pologne. La Pologne est le deuxième pays derrière la Russie à accueillir des réfugiés ukrainiens. Et d'ailleurs, on a même appris qu'il y avait une unité, a priori, qui était en formation en Pologne de réfugiés ukrainiens. Donc voilà, le départ du PiS du gouvernement n'a pas mis fin à la folie polonaise. Cette folie guerrière transcende les courants politiques en Pologne. Considération militaire générale toujours, et n'oubliez pas, lorsqu'on regarde la carte des opérations militaires, on y est dans quelques minutes, de garder en tête la totalité de la ligne de front. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur Otcheretino, parce que là, les Russes sont en train de faire une percée magistrale. Il faut le regarder de manière générale, parce qu'il peut se passer des choses sur le front. On voit d'ailleurs que les Russes testent en permanence toute la ligne de front, et on est vraiment dans ce que faisait le général Broussilov en 1916. J'en ai souvent parlé, je ne vais pas revenir dessus. Donc, garde importante pour comprendre ce qui se passe en ce moment sur la ligne de front, de garder l'ensemble, d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Ne pas oublier non plus que depuis le 24 février 2022, la priorité, c'est le Donbass. Quoi que fasse Vladimir Poutine, est-ce qu'il y aura une offensive dans la région de Kharkov ou ailleurs, la priorité. En tout cas, tout cela est fait pour attirer des troupes, pour permettre à la Russie, à l'armée russe, de libérer complètement le Donbass pour mettre fin au calvaire de ces populations. Voilà. Petit rappel, je le rappellerai encore régulièrement, hein, ne faites pas comme sur LCI ou sur BFM où tout d'un coup ils se mettent à focaliser sur une bataille alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus large qui est en train de se passer. Et c'est ça que nous devons, nous les analystes et ceux qui s'y intéressent, essayer de comprendre. Deuxième considération, et ça j'en avais déjà parlé il y a plus d'un an, c'est les limites du Festung Befehl, hein, c'est-à-dire de transformer toutes les localités, les usines en forteresses. C'est la base de la défense qui était mise en œuvre par Kiev depuis 2014. Donc pour eux, en plus, ça posait pas de problème puisqu'ils savent pertinemment que le Donbass est russe, que la population est russe. Donc transformer n'importe quelle ville, n'importe quelle usine dans le Donbass en bastion défensif ne leur posait aucun problème éthique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça a des limites, c'est-à-dire que, par exemple, les lignes ne sont pas forcément cohérentes. Alors que les lignes de défense russes qui étaient en pleine steppe, donc au sud de Zaporoger, était cohérente avec des zones d'observation, des zones de tir, des zones de destruction, de coordination des feux, tout ça parfaitement organisé et fabriqué, eh bien, la défense qui vienne, elle, dépend des localités dans lesquelles se sont installées ces troupes. Et tout ça, ça se contourne. Et une fois que vous en prenez une, eh bien, on peut assister à un effet domino. C'est ce à quoi on est en train d'assister à l'ouest d'Avdiivka. Donc voilà, échec du Festung Befehl, mais qui était parfaitement prévisible, échec accéléré, je dis bien accéléré, parce que ce n'est qu'un accélérateur, les armes magiques n'existent pas, évidemment, par les bombes planantes russes qui, évidemment, écrasent, compressent les abris dans lesquels se réfugient ces malheureux soldats ukrainiens. Mais voilà, maintenant, passons à l'application et allons voir du côté de la carte des opérations militaires. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par annoncer notre gamelin. C'est le colonel Ansel, donc le gamelin mythomane, qui là, dans une interview, a expliqué que l'aide américaine allait permettre à l'armée ukrainienne de prendre l'armée russe au piège. Donc on est toujours dans le grand n'importe quoi. Donc voilà, gamelin mytho, gamelin Ansel. Des tirs dans la profondeur ont eu lieu de part et d'autre. Donc, il y a eu des tirs autour de Simferopol, donc la capitale de la Crimée. Peut-être des scalps ou des Storm Shadow, mais certainement des attaques MS, donc nouvelle version, qui ont été livrées par Washington en mars, c'est-à-dire des missiles qui peuvent porter à plus de 300 km, hein, c'est-à-dire qui peuvent être tirés en arrière de la ligne de front. Visiblement, ils ont été interceptés, donc n'ont pas provoquer de dommages particuliers. C'est vraisemblablement davantage un moyen de tester le système de défense russe pour frapper, pour gâcher les fêtes de mai, le pont de Crimée, hein, le pont de Kerch, hein, puisque là, avec 300 km, eh bien, on peut tirer dessus. Voilà. À suivre donc, pour l'instant, pas de dégâts sérieux. Dégâts sérieux, en revanche, provoqués par les Russes dans une série de frappes sur Odessa, et qui ont bien tapé visiblement des dépôts de munitions qui sont stockés en pleine ville. C'est pour ça aussi qu'il y a des pertes parmi les civils. C'est qu'encore une fois, c'est comme dans le Donbass, aucune éthique vis-à-vis des populations civiles. On voit d'ailleurs un des dépôts qui a fait une explosion impressionnante avec des populations civiles qui habitent autour. Donc là, les Russes ont frappé fort. Un semblant d'activation sur le front de Kherson, puisque les Kieviens ont annoncé à occuper en fait les espèces d'îles qui se trouvent au milieu du Dniepr à cet endroit-là. Donc sur la carte, ça change rien parce que j'ai fait passer la frontière au milieu de ces îles précisément. Et je pense en fait que c'est toujours une zone grise. C'est une opération TikTok qui risque de coûter des hommes à Kiev, mais pour parler d'autre chose que de la catastrophe, sur le reste de la ligne de front, en attendant, les Russes bombardent largement à coups de bombes planantes toutes les concentrations de troupes observées dans cette zone-là, mais pas de modification du terrain particulière notée à cet endroit-là. Les Russes continuent à avancer sur Robotino, mais contrairement à ce qui avait été dit à certains endroits, ne se sont toujours pas emparés de la localité. De toute manière, ça n'a aucune valeur stratégique, ce serait purement symbolique, ce serait juste le moyen de montrer aux Ukrainiens que le peu qu'ils ont acquis, eh bien, ils l'ont perdu. Voilà, pas grand intérêt. Intéressant, en revanche, une poussée sur le front sud de la République populaire de Donetsk, du côté de Urajaïne. Là aussi, les Kieviens avaient avancé sur les positions russes l'été dernier, et donc les Russes sont rentrés dans la localité Bon, cela dit, ici non plus, c'est pas très très impressionnant pour l'instant, mais en tout cas, des moyens d'artillerie, de bombardement sont mis en place et les Russes avancent doucement mais sûrement. C'est ce qu'on observe ici également du côté vers Ougledar, du côté de Pavlovka, mais pas de progression significative. Des bombardements, mais pas de progression. Les Russes avancent du côté de Paraskovka. À cet endroit-là, la localité avait été annoncée libérée, puis finalement, elle ne l'a pas été. Donc, encore une fois, l'enjeu, c'est d'arriver à couper physiquement la ligne d'approvisionnement d'Ougledar. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Krasnogorovka, les Russes continuent de progresser. Et à cette occasion-là, on a vu encore l'utilisation de la colonne d'assaut mécanisée, hein, espèce de char de tortue qui part devant la colonne à toute vitesse, suivi par des véhicules mécanisés blindés d'infanterie pour parcourir rapidement l'espace et déposer l'infanterie sur les positions. Donc ça a marché à Krasnogorovka. On a de plus en plus de vidéos où on voit comme ça ces colonnes d'assaut. C'est extrêmement risqué, mais ça montre le niveau de professionnalisme et d'autonomie maintenant des unités russes. C'est ce qu'on voit de manière sur toute la ligne de front. Autonomie et professionnalisme et audace également. On monte plus au nord et là, évidemment, c'est là que se passe pour l'instant l'essentiel du front, même si, encore une fois, il faut bien garder l'ensemble du front en tête. Donc là, les Russes ont continué la percée depuis Avdiivka. Donc Avdiivka est tombé mi-février et ils ont percé, ils en sont à 20 km quasiment de percée depuis Avdiivka, donc c'est pas rien. Et surtout, encore une fois, ils avancent le long des hauteurs qui mènent vers Pakrovsk. Donc là, j'ai mis une deuxième direction possible, c'est-à-dire que arriver à la frontière et prendre le nœud routier de Pakrovsk, ça ce serait excellent pour la suite des opérations. Et puis, bien sûr, remonter vers Konstantinovka, encercler potentiellement les troupes ukrainiennes qui sont à Toretsk et à New York, à cet endroit-là. Donc ça, ce serait un immense chaudron, une très belle opération qui serait du niveau de celle de Mariupol tout au début de l'opération militaire spéciale et qui rejoindrait en fait l'offensive de Tchassofière. On va en parler un peu plus haut. Donc voilà les perspectives. Donc comme on le voit, les Russes ont officiellement libéré Berditché, c'est annoncé par le ministère de la Défense. Ils sont arrivés à la pairie du village de Soloviov à cet endroit-là et de celui de Sokol à cet endroit-là et ils pourraient s'en emparer assez rapidement. Ocheriteno, donc qui était le point clé où je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps, a été enlevé, comme j'avais dit la dernière fois, parce que des troupes ukrainiennes refusaient de prendre leur position et les ont abandonnées. Les Russes ont, peu de temps après, libéré les deux villages, Novokalinovo ici et Keramik à cet endroit-là. Ils sont en train de donner l'assaut à Arkhangelsk, avec la volonté évidemment de prendre également Kalinovo, et sont à la périphérie de Novo-Alexandrovka. Donc ça va très vite, donc si ça se trouve au moment où j'aurai publié cette carte, en fait elle sera déjà dépassée, les Russes en tout cas sont vraiment en train d'enfoncer la ligne de défense qui avait été mise en place par Kiev après la chute d'Avdiivka. Les Russes avancent également donc du côté de Tchassofyar, ils restent à la périphérie de ce quartier. Kiev a été contraint d'envoyer des brigades motivées ou pour motiver ceux qui ne sont pas motivés, c'est-à-dire notamment le Azov, la 3e brigade d'assaut. C'est peut-être là d'ailleurs que s'est rendu Biletsky, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, la Russie sur Tchassofyar se contente des bombes planantes, de l'artillerie pour détruire le maximum de renforts et a réussi à percer l'obstacle magique du général Gamelin Richou, qui nous avait expliqué que ce canal qui fait entre 2 et 4 mètres de largeur allait arrêter l'armée russe. Et il l'a encore moins arrêté que, d'après ce que j'ai lu, en fait, une partie du canal est souterraine. Et là, a priori, les Russes sont passés précisément à cette partie où le canal est enterré. Donc, ce n'est pas la ligne Maginot du tout, contrairement à ce que pensait Gamelin Richou. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce mythe du canal de 2 mètres de large qui va arrêter l'armée russe a été aussi évoqué par quelqu'un que je ne connaissais pas qui s'appelle Thibaut Fouillet, l'Institut d'études stratégiques et de défense, ça doit, je pense, dépendre plus ou moins du ministère de la Défense, et qui nous expliquait la même fadaise en disant que ce serait difficile à franchir. Bah voilà, c'est franchi. Donc là, les Russes ont une bonne position qui leur permettrait, si les contre-attaques ukrainiennes échouent, de donner l'assaut sur le flanc sud de Tchassofyar. Voilà. Et toujours dans la perspective globale d'un grand encerclement comme on les aime et d'un assaut convergent vers Konstantinovka. Bombardement massif autour de Sporno à cet endroit-là, mais pour l'instant, pas d'avancée particulière. Sur le front, dans la direction de Kharkov, là aussi, des unités de représailles ont été déployées pour essayer de reprendre les gains territoriaux, pas très significatifs d'ailleurs, qui avaient été conquis par les Russes ces dernières semaines, mais je vois rien de très précis. Plus au nord, en revanche, un assaut audacieux, sans doute imprévu, y compris par les Russes, a été mené et a permis aux troupes russes de prendre pied dans le village de Kislovska, à cet endroit-là, et ils seraient en train de continuer leur progression en le nettoyant pour ensuite également se rabattre sur cette localité-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes, le jeudi 2 mai 2024. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir comment vous pouvez nous aider, à vous inscrire sur tous nos réseaux. Ça, c'est gratuit. Faites-le. Telegram, Twitter, Odyssey, Rumble. Et comme ça, vous ne louperez aucune de nos vidéos. Inscrivez-vous également sur la chaîne pour suivre l'échiquier mondial. En tout cas, les nouvelles sur le front sont de plus en plus bonnes. Et donc, plus que jamais, courage, tenez bon, on les aura.